Bonjour à tous, c'est Samy. Bienvenue sur le podcast InVovo, le podcast qui, en plein confinement de Covid-19, vous permet de partir à la rencontre de superbes personnes et initiatives à Madagascar, mais aussi au sein de la diaspora malgache. Pour le numéro 17, je voulais faire un clin d'œil à toutes ces superbes initiatives qui existent et qui ne lâchent rien face au Covid-19. Je parle de ces initiatives qui viennent en aide au corps médical et aux hôpitaux. Du coup, j'ai rencontré pour vous l'association ECHO. Bonjour, Dera Rane Vuzanen. Vous représentez l'association ECHO et vous êtes le président justement de cette association. Merci beaucoup à vous de cette opportunité pour cette interview.
Bonjour Samy, bah, écoutez, ravi que vous soyez intéressé par nos actions. Merci plutôt à vous de l'intérêt que vous portez déjà aux actions de l'association, mais surtout je pense à la situation sanitaire et socio-économique de Madagascar. Donc voilà.
Alors, on va un peu parler de l'association. Hein. C'est une association qui a été créée en 2018 par un groupe de médecins de la diaspora malgache. Et cette association avait comme objectif, je pense que c'est toujours le même objectif d'ailleurs en 2020, le renforcement de la prise en charge des soins urgents de réanimation à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous dire, Dera, quel a été, si je puis dire, le fait déclencheur pour mettre sur pied cette association ?
Oula, alors le déclencheur, je dirais plutôt que c'est une réflexion finalement mûrie depuis plusieurs années. Hein. C'était bien avant 2018, c'est une réflexion qui n'est pas uniquement la mienne d'ailleurs, c'est un peu commune avec quelques personnes sur la situation surtout sanitaire et aussi au niveau de l'éducation à Madagascar. Et finalement, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur, mais c'est l'expérience aussi personnel du système de santé, aussi une expérience professionnelle, une expérience familiale. Donc c'est le constat est parti de là plutôt, la motivation, l'envie de se dire que oui, on peut faire quelque chose, et quel niveau et comment. C'est parti de là, donc 2018, c'était un peu la constitution officielle, mais je dirais c'est quand même, il n'y a pas un effet déclencheur particulier. Après, vous pouvez parler de la campagne actuelle, Farim, bien sûr, par rapport à l'épidémie de coronavirus à Madagascar actuellement, c'est surtout finalement cette campagne qui est la première de l'association. Hein. Elle a été plutôt du fait de la suite de cette collaboration avec les professionnels de terrain à Madagascar.
Okay. On en viendra justement par rapport à cette situation, mais est-ce que vous pouvez nous renseigner quelles sont les priorités d'action de l'association ECHO ?
Alors, je dirais, vous savez, il y a une expression qu'on a mis un peu sur, auquel vraiment on y croit, c'est « ranomitete muliriaki », c'est-à-dire que les gouttes d'eau font la mer. Je pense que nous, vraiment, nos actions sont portées essentiellement en premier lieu, je pense, sur la sensibilisation de tout un chacun, de se dire que oui, c'est l'affaire de chacun et c'est l'affaire de tous. Après, les actions concrètes de l'association, parce que c'est une goutte d'eau vraiment par rapport à la problématique actuelle, c'est vraiment essayer de protéger le système de santé à Madagascar. Alors, c'est une grosse prétention, hein, mais vraiment à l'échelle de ce qu'on peut faire. Et en fournissant des matériels de protection au personnel soignant. Les actions concrètes sont plus ça.
Et pour l'association, du coup, quelles sont les lacunes, si je peux dire, qu'il y a dans le domaine médical ici à Madagascar ?
Oui, alors le terme lacune, effectivement, est quand même un peu... moi, je dirais, ouais. quels sont peut-être les besoins parce que c'est
Oui,
très
voilà,
prétentieux.
c'est ça.
Voilà, ce serait très prétentieux de ma part de dire je connais bien le système de santé à Madagascar. Voilà, je peux parler peut-être d'expérience, en tout cas, notamment lors de l'épidémie de peste pulmonaire, d'expérience personnelle à cette époque-là. Et un peu, mais je dirais quels sont les besoins? Ben, il y en a
Les
beaucoup.
besoins.
Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est comme tout système de santé partout dans le monde, hein. Il y a des besoins. Finalement, le manque dans le système de soins est partout. Donc, ce n'est pas propre à Madagascar et effectivement, il y a beaucoup de besoins. Les besoins matériels, les besoins humains. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas propre à Madagascar. Mais.
Vraiment pas.
Là, c'est assez flagrant quand même en ce moment, effectivement, pour Madagascar.
Tout à l'heure, justement, on parlait de la pandémie et l'association est aussi au front contre la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions de l'association EC par rapport aux soins urgents de réanimation ici à Madagascar?
Justement, je dirais, l'association AIC, finalement, n'existe pas toute seule, hein. Nous sommes un relais, je dirais, de solidarité, finalement, de personnes, parce que les personnes qui sont au front, par de la petite, de la couturière qui se coud les surblouses ou de la personne qui transborde. Donc, les actions, je dirais, sont nombreuses. Nous, en gros, on essaye de faire en sorte alors vraiment à une petite échelle, qu'il y a un dynamisme social, économique qui se poursuit. Donc, on essaie de se fournir localement. Et ça, ce sont déjà des actions, je pense. Ensuite, il y a toute une masse de personnes qui essaient d'organiser bah, les artistes qui sont avec nous. Bah, ça, ce sont, je pense, aussi des actions. Alors, des actions concrètes, par contre, vous voulez dire à l'hôpital, au front, c'est. Vous savez, tout le monde a peur, par exemple, d'aller à l'hôpital, hein. Donc, le fait qu'il y ait des personnes qui acceptent de livrer ces produits qu'on livre là à l'hôpital, c'est déjà une action de la part de cette personne. Donc, tout ça, c'est du volontariat, vraiment de l'engagement personnel. Donc, après les actions, nous, en ce moment, on livre essentiellement des besoins de protection pour le personnel. Que ce soit administratif ou ceux à qui on nous dit que eux ils sont en contact et qui sont à risque. Et c'est essentiellement donc les visières, les surblouses, les combinaisons, les masques chirurgicaux, les masques FFP2. Et puis alors on a un peu décliné les choses parce que voilà, vous vous adaptez à la situation. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de saturomètre, qu'il n'y a pas de masque. Pour les patients et tout le reste, bah, on essaie de combiner un peu tout ça. Je ne sais pas si je réponds à
Et
votre question, en fait.
mais du coup, je vais rebondir. En fait, est-ce qu'on peut dire que ce sont des dons? Oui, ce sont des dons que vous fournissez à des hôpitaux locaux.
Oui, alors vous savez, moi, le terme don est toujours parce qu'il y a toujours un aspect un peu sacrificiel quand on parle, je fais don de quelque chose. Là, pour nous, je pense qu'il s'agit de la gratuité de l'acte. Là, c'est ce qu'on fait au personnel soignant, là, c'est ce qu'on fait à soi-même, c'est ce qu'on fait à nos proches, c'est ce qu'on fait pour toute la communauté. Donc oui, ces actions-là, donc je ne sais pas d'ailleurs quel terme utiliser à part don, effectivement, mais oui, nous fournissons à des hôpitaux auprès de personnes avec qui nous collaborons depuis des années. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le terme collaborer, mais pas un don ou tout le reste. C'est une collaboration parce que, une fois de plus, l'association n'a aucune raison d'être. S'il n'y a pas les médecins, les infirmiers, les filles de salle, il n'y a aucune raison d'être de l'association s'il n'y a pas ces personnes-là non plus sur le terrain qui font les actions concrètes pour les patients, pour arrêter le coronavirus, pour voilà donc voilà c'était un peu mettre en contexte un peu l'idée, enfin, ce qui anime en tout cas l'association.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aidez des centres hospitaliers en particulier ou c'est vraiment, par exemple, c'est des gens qui font des demandes ou comment ça se passe?
Alors, jusqu'à maintenant, en fait, vous savez, on fait vraiment, l'idée, c'est de faire à l'échelle et avec les moyens du bord, hein. Nous, c'est une jeune et petite association, donc nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et effectivement, jusqu'à maintenant, nous avons essayé de collaborer qu'avec les structures qui ont fait appel à nous, avec donc ce qu'on peut fournir. Et c'était quoi déjà votre question?
Est-ce
Peut-être que
que
j'arrive.
vous, enfin, la collaboration, on va dire, c'est des centres hospitaliers en
Oui,
particulier ou
d'accord.
vous les choisissez ou ils vous contactent, comment ça se passe?
Oui, alors nous, en fait, on collabore avec toute structure de santé publique qui font appel à nous. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas des masses parce que, voilà, et puis nous, on ne peut pas faire plus que ce dont on dispose, hein. Donc, ce n'est pas une question de un centre hospitalier, une structure, voilà, située à telle région. Enfin, nous, on est dans la réflexion aussi, c'est que de toute façon, la solution ne peut être que nationale. C'est que si on ne gère que l'épicentre, si on ne gère pas les petits foyers de coronavirus un peu par-ci, par-là, ben, ils peuvent se transformer en épicentre, hein. Donc, la solution doit être nationale et quasi instantanée. Et vous voyez bien l'ampleur du problème. Donc, voilà.
Donc ce serait des petits centres, on va dire, peut-être un peu en dehors de la capitale.
Pour l'instant, ce sont des petits centres de santé de base qui sont autour de la capitale, parce que ce sont ceux qui ont fait appel à nous. Mais à Mourdave, par exemple, c'est plutôt un hôpital régional. Donc, une fois de plus, vous savez, ce qui est très compliqué, c'est que bon, face au confinement et pour justement, tant mieux qu'il y ait les limitations un peu de circulation, affréter toutes ces choses-là dans des régions les plus reculées, c'est toute une logistique qui est complexe. Donc, vraiment, on fait au mieux, mais nous n'avons pas de. L'idée pour nous à la base, c'est de dire, bah, écoutez, si vous avez des fournisseurs locaux, bah, vous nous mettez en contact avec eux. Si vous pensez que vous avez des personnes qui peuvent coudre des surblouses et que vous pouvez trouver du tissu pour les faire là-bas, bah, nous, on prend en charge. Voilà, c'est le plus simple, hein. C'est le plus efficace finalement.
Et est-ce que du coup, est-ce que c'est possible d'avoir, on va dire, une liste de ces centres de base? Je veux dire, dans quelle région ou quel, enfin, j'allais dire quartier, on dit région.
Et là, pour l'instant, alors on est en attente de livraison de quelques centres de santé de base et on est en programmation de livrer des moyens à des structures sur la RN7 et un peu vers Tamatave. Mais disons, on peut parler de choses déjà vraiment peut-être concrètes. J'espère avoir l'occasion de vous reparler de tout ça, mais c'est essentiellement pour l'instant les centres de santé de base autour de la capitale. On est en train de voir avec le centre de santé de base dans le CAS, qui est de l'université, où il y a quand même beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens, et d'autres santé de base en périphérie, qui est plutôt sur le nord de la capitale.
Ben, je suppose que vous avez pu parler avec ces centres hospitaliers. C'est une question un peu bizarre. Comment ils sont-ils?
Alors, je dirais que je pense que je ne me permettrai pas de me placer à la place des personnes qui travaillent actuellement, en tout cas directement face au coronavirus à Madagascar, hein. Je peux témoigner en tout cas de ce que moi j'ai vécu en tant que personnel hospitalier. De ce que j'ai vécu, pu vivre pendant l'épidémie de coronavirus ici, du moins à Paris, et dans mon hôpital, et on va dire dans la structure que j'ai gérée. En tout cas, je pense qu'ils sont dans la même situation, c'est que, indépendamment du manque et tout ce que vous voulez, des besoins, on est face à une nouvelle maladie. Finalement, les thérapeutiques, ben, on se pose tous encore des questions. Ensuite, on sait qu'il y a des complications qu'on peut traiter et ça, c'est l'essentiel. On commence à connaître certaines choses. Donc, je pense que ils sont dans la même situation, une situation de vous êtes dans un état de sidération, mais vous devez agir. L'exemple est assez concret. Moi, j'ai des copains qui sont dans les services hospitaliers dans le sud de la France, et jusqu'à il y a 2 mois, ils me disaient, mais nous, le problème, c'est qu'on n'a jamais eu de coronavirus ici. Et donc, comme il n'y a pas de livre encore, il y a tout ce que vous voulez savoir sur le coronavirus, là, ce Covid-19 actuel, ben, vous devez finalement apprendre par vous-même et vous documenter et se faire une idée et être sûr que c'est, voilà, que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour la thérapeutique. Donc, tout ça complique un peu quand même le travail du personnel hospitalier ou des gens qui travaillent pour le Covid-19 à Madagascar. Ils sont face à une inconnue, comme un peu comme tout le monde. Ensuite, voilà, les moyens de diagnostic, c'est comme partout, il en manque, donc c'est très compliqué. Et là, d'autant plus que les moyens de protection, enfin, pour pouvoir travailler efficacement, sérieusement et en toute sécurité, bah, il y a des besoins énormes. Donc, je ne peux pas me mettre à leur place, mais je peux imaginer leurs difficultés. Moi, quand je travaillais ici dans mon service, bah, j'avais droit à un masque pour la journée, parce que voilà, toute la journée à l'hôpital, mais après en me disant, rentre chez toi et puis advienne que pourra. Donc c'est un peu ce qui leur arrive, parce que ce sont des gens, des personnes humaines comme tout un chacun, qui ont une vie, qui ont une histoire, qui ont une famille, qui voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'ils rentrent chez eux, qu'ils sont pas, ils représentent pas uniquement leur fonction. C'est des
Tout
personnes
est
humaines.
personnel,
Voilà.
exactement. Et vu qu'on parle que ce sont des personnes humaines, est-ce que enfin, vous n'êtes pas ici, mais du coup, là où vous êtes, est-ce que le personnel bénéficie, par exemple, d'un soutien ou d'un accompagnement psychologique? Parce qu'on le sait, cette situation, juste, surtout pour le personnel soignant, c'est vraiment une situation très difficile. Est-ce que ce soutien ou cet accompagnement, il existe?
À Paris ou à Madagascar, vous voulez
Oui, à
dire?
Paris.
À Paris, il
Madagascar, je
existe.
enfin,
À Madagascar, oui, si. Alors, effectivement, enfin, alors je peux parler, une fois de plus, je peux parler de l'hôpital où je suis à la Fondation Rothschild. Ça existe, ça a été mis en place assez précocement, et parce que c'est la particularité de cet hôpital aussi, c'est une fondation qui est un centre de référence pour tout ce qui est la tête et le cou, la neurologie, la neurochirurgie et tout ça. Donc, nous avons des psychologues qui effectivement, l'administration a même sollicité le personnel de l'hôpital à aller faire un débriefing et voir voilà comment tout un chacun a vécu et pourrait d'ailleurs vivre encore une prochaine épidémie de coronavirus en France. Oui.
Ok. Donc, en fait, je disais que je vous posais la question à vous parce que du coup, je ne suis pas du tout en contact avec, une équipe de soignants localement. Mais au cas où vous avez fait cette information, en fait, bah, je vous demande quand même, est-ce que, quand même, malgré cette situation, on va dire, nos super-héros locaux, ils ont un accompagnement psychologique par rapport à cette situation très compliquée?
Alors, vous savez, dans toute situation de crise comme ça, enfin, en tout cas, moi, de l'expérience, en tout cas, de ce que je connais un peu en France, parce que c'est là où j'exerce, de toute façon, c'est souvent un peu après voilà, qu'on débriefe le personnel, parce que, en gros, c'est toujours un stress post-traumatique en général. Et c'est là qu'il faut en général accompagner les gens. Il y a des moments, effectivement, pendant le Covid-19, ici, comme c'est une situation exceptionnelle, ça a démarré très tôt, les soutiens aux soignants, les soutiens psychologiques, mais c'est aussi à force d'expérience qu'on se dit, ah oui, là, avant, on faisait que après, maintenant, il faut faire pendant et après.
Et
Pour ce
après.
soutien. Donc à Madagascar, j'ai pas notion, Mais une fois de plus, ça aussi, c'est encore toute une autre approche, hein. Cette approche-là est arrivée même en Europe assez tardivement. Je dirais, et puis il y a le. Je ne sais pas, là, je parle en mon nom personnel un peu d'une analyse rapide comme ça, mais à Madagascar, on est très intime, et les choses intimes. Ne semble pas être exposé au grand jour pour des tas de raisons. Donc, je ne sais pas, c'est pas encore. Je pense que c'est pas encore dans le.
Dans nos
Dans. Voilà.
habitudes.
Voilà, c'est pas encore en tout cas. Alors, je n'ai pas la prétention de tout en savoir sur Madagascar, hein, mais de visu comme ça m'a pas l'air en tout cas d'être. C'est un luxe, hein, d'avoir les psychologues.
Ouais, effectivement.
Et voilà,
D'ailleurs,
c'est ça un
ça
peu.
mériterait un autre interview, ça. Revenons un peu à l'association EC. Est-ce que, à dire, vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles l'association fait face en ce moment par rapport à ses actions pour aider le personnel soignant à Madagascar? Vous nous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'acheminement des produits jusqu'à, disons, Murundav. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous faites face?
Je dirais, elles sont nombreuses. Mais je ne sais pas si on peut catégorifier. D'abord, de l'ordre qu'il ne faut pas oublier que c'est une pandémie. Donc, les demandes sont mondiales. Donc, même pour l'accès aux produits, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que tout, malheureusement, on importe tout. Les masques, les blouses, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les soignants, enfin. Une bonne partie des matériels de soins, de surveillance et tout ce que vous voulez, pour l'instant, une bonne partie en importe. La concurrence est mondiale, donc la disponibilité est complexe. Il ne faut pas oublier que, comme c'est une pandémie, malheureusement ou heureusement, tous les pays sont dans un système de protectionnisme pour dire si c'est tel pays qui produit, ben, il fait gaffe pour que ben, son propre pays n'en manque pas. Donc, il y a cette difficulté. Ensuite, il y a la difficulté de l'acheminement qui prend beaucoup de temps. C'est en moyenne un mois, voire plus. Donc, en sachant que c'est une course contre la montre, chaque jour de gagné, c'est chaque jour de gagné contre le coronavirus 19, enfin, contre le Covid-19. Donc, il y a cette difficulté. Ensuite, il y a les difficultés. Aussi de financière, hein, de disponibilité de moyens. Quand vous pensez que si pour bien faire les choses, il faut changer 3 masques par jour pour tout personnel qui est en contact direct avec un patient atteint du Covid-19, vous pouvez faire un calcul, c'est effarant. Je ne parle même pas que des masques chirurgicaux. Donc ça, que sans pouvoir acquérir les. Ces moyens-là, c'est compliqué. Ensuite, en produire, ce serait la meilleure solution sur Madagascar. Hein, c'est ce que nous, on favorise et on incite énormément. Je pense que vraiment, ça peut se faire, enfin, à mon humble avis. Ensuite, les difficultés d'acheminement. Une fois de plus, pour les productions, vous voyez, pour les blouses, ben, comme heureusement que là, je pense que au moins les marchands de tissus sont dans le commerce essentiel, parce que ben, quand c'est pas dans les commerces essentiels, vous pouvez plus rien faire, ni blouses, ni surchaussures, ni que nous, on propose en recyclable, parce que voilà. Donc, il y a ça, donc se procurer aussi les matières premières pour pouvoir produire, c'est pas simple. Ensuite, l'acheminement, bah, c'est tant mieux, il y a une limitation des circulations pour pouvoir contenir le virus et c'est une bonne chose. Mais après, pour pouvoir acheminer quelque chose de Tana à Morondava ou de Tana à Tirabé ou à Tuléar ou où vous voulez, c'est. C'est encore. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est toute une chaîne de solidarité humaine, de personnes engagées en se disant, bah, on y va, bah, on fait à hauteur de ce qu'on peut.
Voilà, exactement, exactement. Bah, du coup, ça veut dire que localement, en fait, vous travaillez, par exemple, avec des, je sais pas, des entreprises, des groupements, des associations aussi, pour mener à bien, ces différentes, actions que vous faites?
Alors oui, nous travaillons, nous essayons en tout cas de frapper aux portes des groupements industriels, notamment de voir une réflexion sur est-ce que, avec tous les groupements industriels, qui donc j'espère que tout n'est pas à l'arrêt, mais au moins est-ce qu'il y a eu ici des reconversions, ici quand je dis ici, par exemple en France ou un peu ailleurs, hein, des reconversions pour produire justement ces matériels essentiels pour la lutte contre le Covid-19. Nous, ça, on le fait maintenant à petite échelle, de petits ateliers de couture qui, bah, voilà, cousent des surblouses quand avant, ils faisaient autre chose. Nous avons donc, il y a ces formes de collaboration-là avec ces petits ateliers, mais cette demande aussi auprès des entreprises locales. Nous collaborons avec les artistes pour dire, bah, sensibilisant, pour dire que c'est l'affaire de tous et que c'est l'affaire de chacun. Nous collaborons avec vous, qui, je pense, enfin, si vous nous avez demandé de parler un peu de l'association, c'est que vous portez intérêt. C'est une collaboration énorme, hein, parce que tout ça, voilà, c'est. Donc, je dirais c'est divers, c'est multisectoriel, et c'est tant mieux parce que voilà, mais du monsieur qui nous collaborant avec le taxi qui bah, livre à l'hôpital, voilà, c'est donc c'est vraiment multisectoriel et voilà des gens de tout âge et on est assez content, très content, parce que on sent que les jeunes se bougent. C'est ça, on est en attente de cette collaboration des jeunes de Madagascar en se disant, c'est notre présent, c'est notre avenir.
Est-ce que vous pouvez nous dire du coup là maintenant en juillet, attendez, on est le, faut que je vois la date. On est le 28 juillet 2020 et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez pu distribuer combien de visières ou surblouses ou masques, etc.
Oui, oui, bien, enfin oui. Alors, les chiffres et moi, ça n'a jamais été vraiment extraordinaire, mais c'est un peu quand on annonce les chiffres de décès par jour, ce sont pas des chiffres, ce sont des personnes humaines derrière.
Personne.
Donc les chiffres, c'est important, oui, mais je peux dire, alors comme ça, on peut fournir, hein, on est très transparent sur nos actions, donc tout est fiché. On a un tableau, enfin, qui est tenu par notre correspondante, nos correspondantes locales, donc on sait où on a distribué, à qui et quand. Donc, mais moi, effectivement, dans la gestion de ça, je ne suis pas le plus fort, mais je sais qu'en moyenne, on a pu livrer en tout cas 9 000 masques chirurgicaux. Il me semble autour de 3 000 masques FFP2. Alors en visière, on a dû livrer une centaine. Alors en combinaison, on a dû livrer autour de 500 ou 600. En surblouse, on a livré plus de 2 000 plus. Après, il y a des tas d'autres choses. Enfin, il y a les, comment vous appelez ça, là, les surchaussures, les calottes, tout ça. Mais les chiffres, finalement, bon, je ne suis pas extraordinaire dans les chiffres. C'est pas ça,
Y a pas de
en bien ou en mauvais, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Donc, mais c'est tracé. Enfin, on a vraiment, c'est tout est
D'accord.
répertorié. Donc, voilà, c'est un peu. À aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ben, les commandes, ça prend du temps. Donc, nous avons au moins, ça, je peux vous dire, 1 000 masques haute concentration pour les patients qui sont en cours d'acheminement. On a 900 visières qui sont a priori déjà arrivées, mais on attend. On a l'équivalent de, enfin, on a 500 masques N95 qu'on attend. On a des saturomètres, une centaine. Qu'on attend. Donc voilà, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que c'est qu'on attend.
On attend.
Et ça, c'est dur.
J'allais dire, bien de fagas, mais en fait, cette citation, elle est juste un peu pénible parfois.
Oui.
Pour ceux et celles qui écoutent le podcast et qui, par exemple, souhaitent vous aider, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose aujourd'hui pour l'association EC et pour le personnel soignant?
Alors, oui, je vais juste, si je peux me permettre, alors reformuler votre question.
Oui, oui.
non, mais parce qu'il n'y a pas de souci. Hein.
Oui, il n'y a pas de
souci. L'idée qui nous porte, c'est que ce n'est pas l'association AEC qu'on aide et ce n'est pas l'association soignant finalement qu'on aide. C'est on s'aide soi-même en venant en appui aux soignants et on s'aide la société, ceux qui sont proches. Donc, c'est un peu une accolade énorme en temps de distanciation en disant venant, faisant quelque chose. Donc, de quoi je sais faire, comment je peux faire, voilà, avec ou sans nous d'ailleurs, mais avec nous, ce serait avec grand plaisir. Donc, nous avons en tout cas un appel à don qui est sur Hello Asso. Voilà, nous avons un site où on peut aller voir un peu qui nous sommes. C'est peut-être sur ça que j'aurais dû commencer. Et nous avons une page Facebook, LinkedIn et Instagram. Alors, moi, je ne suis pas très fort en tout ça, mais je crois qu'il y a quelques membres de l'association qui sont en train de réfléchir sur l'extension un peu de nos moyens de communication. Donc, essentiellement, sur votre question, c'est plutôt sensibiliser au maximum. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez nous aider, parce que tout seul, on peut s'aider plutôt. Voilà, vous voyez, moi-même, j'ai fait le lapsus. C'est comme ça qu'on peut s'aider. C'est sensibiliser au maximum en se disant que c'est l'affaire de chacun et de tous et que on peut faire à chacun à notre niveau. Les autres moyens, en tout cas matériels, c'est nous avons donc le site Hello Asso, nous avons Facebook, nous avons le site de l'association, nous avons Instagram et nous avons LinkedIn.
Et peut-être dernière question, quels sont les objectifs de l'association EC pour les mois à venir, pour finir l'année, on va dire? En beauté.
Bah écoutez, pour finir l'année en beauté, je dirais l'objectif de l'association AEC, c'est de disparaître. Je m'explique.
C'est-à-dire ?
C'est parce que si l'association AEC n'est plus, c'est que tout va pour le mieux.
Ouais, bon, ouais, effectivement.
Ça, c'est l'objectif un peu vraiment de, je dirais, idéal. Après, nous avons indépendamment maintenant de cette campagne de l'épidémie contre le Covid-19, en tout cas à Madagascar, ben ça, dans l'émulation des réflexions avec les collaborateurs à Madagascar, d'ailleurs multisectoriels une fois de plus, et, y compris les artistes et autres, c'est qu'on s'attelle à mettre en place des projets pérennes. Pas uniquement des Wundsranvac, c'est là qu'il faut faire, ça c'est très important, mais on est dans la réflexion de comment est-ce qu'on peut pérenniser tout ça, parce que voilà, donc, et que ce soit autonome, que ça fonctionne tout seul. Donc par exemple, pour, vous voyez, les hôpitaux, ben, on pense à, ça fait partie des demandes et des besoins des hôpitaux, produire eux-mêmes leur propre gel hydroalcoolique. Donc, on est en train de réfléchir comment on peut mettre ça en place ensemble. Dans les hôpitaux publics à Madagascar, vous emmenez vos draps, tout est vraiment, que ce soit pour les patients ou tout le reste. Donc, réfléchir à mettre en place, à réactiver des unités de production de lingerie hospitalière. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des projets un peu comme ça. Enfin, maintenant, on va réfléchir avec des collaborateurs là en disant, bah, il y a cette épidémie-là, bah, elle va durer, est-ce qu'elle aura d'autres? Donc, voilà, il y a des choses qui serviront, qui servent maintenant, qui serviront plus tard. Donc, on est plus dans des projets comme ça. Même on est en train de réfléchir sur, on constate en tout cas les besoins en ingénieurs et en techniciens biomédicaux, hein, à Madagascar. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau, comment on peut travailler ensemble et développer ça ensemble. On est en train de réfléchir sur quoi d'autre, je peux vous dire, sur les kits d'urgence pour les patients qui viennent à l'hôpital, constituer ça. Enfin, voilà, c'est des tas de choses comme ça qu'on met en place un peu. C'est des réflexions, mais on espère qu'ils seront plutôt des actions, surtout. Oui. Donc, en tout cas, nous faisons appel à tous les projets parce que on sait que Madagascar, c'est une population de jeunes, très créatifs. Vous savez, il y a une chose, souvent on dit, effectivement, on dit le système sanitaire, par exemple, de Madagascar, et moi-même, je le dis, est très fragile et plus que fragilisé maintenant. Mais il faut toujours se mettre en tête, quand même, je pense, que c'est un système, et surtout, ce sont des soignants qui font beaucoup avec peu.
Exact. Voilà.
Que ce soit pendant là ou avant, il faut se mettre ça, je pense, en tête, qu'ils font vraiment beaucoup avec peu. Et parmi les confrères avec qui je travaille en ce moment et avec qui on va avoir des échanges d'expérience avec un certain nombre de collaborateurs médecins à Madagascar, il y a un médecin, donc un réanimateur, qui est spécialiste de ce qu'on appelle la médecine frugale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à la médecine sans trop de moyens. Parce que c'est ça la vraie médecine, la clinique. Pour ce qui est de la technicité, pour guérir, faire les greffes et tout ça, c'est autre chose. Mais on se rend compte qu'on est un peu dans une médecine, et c'est une tendance assez générale, hein. Donc la médecine frugale, figurez-vous que ces médecins-là, ils vont dans les hôpitaux et les structures universitaires des pays à pauvres ressources pour justement faire l'expérience et se dire « mais c'est extraordinaire qu'on peut faire beaucoup avec peu et comment on peut s'adapter ?» Donc, c'est vraiment ce collègue-là, donc, il est avec nous, en lien avec nous, notamment pour essayer de travailler avec nos confrères à Madagascar contre le Covid-19. Donc,
super, ça.
Voilà.
Bah, écoutez, merci beaucoup, Dir. J'espère que les followers qui écoutent le podcast en ont appris pas mal. Moi, en tout cas, j'en ai appris vraiment pas mal. Je suis super honorée d'avoir pu faire cette interview avec vous, d'en apprendre un peu de personnes, que ce soit ici ou à l'étranger, qui essayent de... Et quand je dis ça, c'est des personnes, on va dire, c'est pas forcément des associations, mais c'est aussi des personnes qui prennent l'initiative d'aider, que ce soit leur Fouctane, par exemple, ou un centre hospitalier, on va dire, ailleurs. Et je trouve ce genre d'action. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview.
En tout cas, merci beaucoup pour vos actions à vous aussi, Samy.
Et c'est le clap de fin pour l'épisode 17. Encore merci à l'association EC pour cette interview. Alors pour les âmes généreuses qui souhaitent aider l'association EC, cela se passe sur le site HelloAsso. Je vous mettrai le lien dans la bio du podcast. Bien sûr, vous pouvez les contacter pour avoir plus d'informations. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires sur le compte Instagram du podcast. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée et prenez soin de vous.